j'assume cette identité de lesbienne catholique, parce que si je me cantonne à ce que moi j'ai retenu de la Bible et de la religion de manière générale, je ne sais pas si j'ai raison de le faire, mais j'arrive à compartimenter des écrits ancestraux et les valeurs de cette religion catholique qui peuvent être des valeurs que n'importe qui pourrait avoir. L'amour, le pardon, le don, c'est des choses... Enfin, c'est même au-delà de la religion, c'est des choses, c'est du bon sens. Hein.
Si vous êtes pris de désespérance, balayez tout cela. Gardez la tête haute. Vous n'avez rien à vous reprocher. Les vérités tuent, celles que l'on tait, deviennent vénéneuses.
À 24 ans, Héloïse est lesbienne et catholique. Elle est l'aînée d'une famille de 6 enfants et continue à aller à la messe tous les dimanches avec ses parents. Suite à une rupture amoureuse, elle est d'ailleurs retournée habiter chez eux, au Rincy, petite ville qu'elle appelle en plaisantant le Neuilly de la Seine-Saint-Denis. La veille de notre entretien chez ses parents, je ne savais toujours pas si sa mère serait présente. Puis elle a toqué à la porte pendant que j'étais avec Héloïse et elles m'ont toutes les deux livré leur histoire. Je m'appelle Rosane Le Carboulec, bienvenue dans Queer.
Donc mon grand-père fait un album qui nous offre... C'est tous les Noëls, on a chacun notre petit album. Bon, le celui-là est très gros, hein. ils sont pas tous la même forme, mais donc il fait un récapitulatif de janvier à décembre de toute son année, avec les photos. Donc ça peut être des photos où nous, on était présents, comme là, des vacances en Normandie, ou des choses qu'il a fait, je sais pas, ailleurs, voilà, là où il est allé à Cannes, en février, où on n'était pas du tout là. C'est un peu une manière de nous, je sais pas, c'est ses souvenirs à lui. Et donc ça, c'est l'album de 2013.
Oh, c'est dingue, il fait un album comme ça tous les ans ?
Tous les ans, ouais.
C'est carrément un livre, le truc.
Ouais, carrément. Mais alors, celui-là est vraiment très gros. Hein. Il y en a, c'est vraiment plus des petits albums comme ça. Et donc, bah, là, en 2013, à la page 3, il y a un petit, il y a deux photos. C'est à Paris, donc c'est la manif pour tous. Hein. On voit les petits drapeaux bleus et roses, là. Et donc, il y a un petit smiley fâché avec. Et tu veux que je lise ce qui est écrit ou...
Ouais, je veux bien que tu lises, ouais.
Donc c'est écrit « Manifestation monstre en janvier contre la loi instaurant le mariage pour tous. Je suis allée défiler pour exprimer mon désaccord. S'agissant de convictions personnelles, je comprends bien que l'on puisse être d'un avis différent du mien. Croire que l'homme et la femme sont interchangeables relève d'un acte de foi et non pas d'une certitude rationnelle. Le genre n'est d'ailleurs qu'une théorie. Le gouvernement a donc imposé à tous les citoyens une véritable religion au nom de laquelle deux hommes ou deux femmes peuvent se marier et adopter, entre parenthèses, et bientôt acheter, ensemble un enfant, au même titre qu'un homme et une femme peuvent se marier et procréer. » Voilà. J'ai grandi majoritairement ici, au Rincy, dans cette maison. Nos parents ont toujours mis l'accent sur la réussite, parce que eux ont fait des études poussées, ils sont tous les deux pharmaciens. Donc j'ai reçu une éducation catholique, j'ai été baptisée. Et tous mes frères et sœurs sont baptisés et on a eu un chemin religieux classique. Enfin, moi en tout cas. Donc j'ai eu tous les sacrements qu'une jeune fille de mon âge peut recevoir. Donc j'ai été baptisée, j'ai fait ma première communion, j'ai fait ma profession de foi et j'ai fait ma confirmation à 16 ans, qui est le dernier sacrement qu'on peut recevoir avant le mariage. On a tous, nos parents nous ont beaucoup emmenés à la messe. On a beaucoup donc fait partie, on a suivi le catéchisme, donc on a toujours été dans une paroisse avec une communauté religieuse. Ça a fait partie de notre vie. D'ailleurs, la majorité des amis de mes parents sont issus de la paroisse. Alors, je pense que j'ai entre 12 et 14 ans et je me sens absolument coupable de pratiquer la masturbation. Je pense que au fond de moi, j'ai cette culpabilité Et alors, paradoxalement, même si la sexualité est un sujet tabou, moi, je suis un petit peu un livre ouvert. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui ne va pas, ça se ressent tout de suite. Et j'ai du mal à cacher mes malaises. Donc, je me rends dans le salon où est ma mère. Et je m'assois à côté d'elle et je fonds en larmes.
Et alors là, se passe quelque chose d'assez incroyable, c'est-à-dire que pour moi, c'est le sixième sens maternel. Alors, je ne connais pas encore ça, mais en une ou deux questions, je pense qu'elle a visé juste et elle me dit quelque chose de l'ordre. Est-ce que tu te touches quelque part et tu as honte? Je pense que c'est à peu près ça. Et alors, je redouble de sanglots et je confesse ce que j'estime presque être un péché. Je pense, je ne sais pas pourquoi, je pense que tous les enfants ont peut-être un petit peu cette sensation-là. Et donc, je raconte ce que je fais à ma mère et s'ensuit une conversation très tendre et très bienveillante. Donc, je pense qu'elle tente de me rassurer, elle tente de me réconforter, voilà, surtout en dédramatisant, en me disant « c'est pas grave, moi aussi je l'ai fait » et finalement, enfin... C'est un peu pour dire si même ta mère le fait, c'est que c'est pas grave.
Une photo de moi, donc je pense que c'est mon anniversaire vu ma tête. J'ai l'air super contente. Je suis dans une chaise haute. Je suis avec ma coiffure que j'ai eue pendant très longtemps quand j'étais petite. Donc un petit carré avec un petit nœud dans les cheveux ou une petite couette comme ça. Et puis donc une jolie petite robe. Et puis... Et donc on peut voir après, bon alors c'est des photomatons, mais on peut voir après un petit peu le contraste de quand c'est... Ça je pense que c'est au collège les deux. Hein. Donc c'est Héloïse qui s'habille toute seule et qui ne veut plus être une petite fille modèle avec sa jolie robe, mais qui préfère avoir une veste de survêtement ou un t-shirt de sport.
À l'époque où moi j'étais au collège, c'était un petit peu plus bienveillant que maintenant. Et il y avait encore pas trop cette espèce de clivage entre filles et garçons avec cette puberté insupportable qui nous met chacun dans des camps et il y a un peu voilà cette séparation. Je pense qu'à mon époque c'était encore un peu les filles et les garçons peuvent être copains sans malaise, sans ce désir pressant d'adolescent qui se fait ressentir partout et à chaque instant. Donc je pense que j'avais quand même 2-3 copains garçons, mais voilà, c'était surtout des copines filles. Et donc effectivement, j'ai eu mes premiers petits copains. Alors c'était très sage, hein. Pour le coup, c'était des bisous sur la bouche et on se tient la main. Et encore, on le fait pas devant tout le monde. Et puis je pourrais pas dire que j'ai eu effectivement, j'ai pas connu le grand amour à cette époque. Je ne me souviens pas avec émotion d'un garçon en particulier. C'est vraiment voilà, je pense que même on pourrait aller jusqu'à dire que j'avais des copains un peu pour faire comme les autres. Et effectivement, donc je me souviens notamment d'une fille. Donc je pense qu'à l'époque, je pensais que j'avais pour elle une amitié très très forte. Et j'écris dans mon journal intime que je l'aime d'amour avec un grand A. Alors cette phrase m'a marquée parce que pour le coup, c'est explicite. C'est écrit noir sur blanc, amour avec un grand A. C'est pas caché, c'est pas, je dis pas que c'est mon ami, je dis je l'aime d'amour avec un grand A et je pense qu'à l'époque je ne me rends absolument pas compte de ce que j'écris. Je l'écris parce que c'est en moi en fait, je le ressens donc je l'écris. Et mais je ne pense pas qu'à l'époque je me rends compte que j'aime une fille comme je suis supposée aimer mes petits copains.
Alors du coup ça donc c'est ce que t'écrivais, enfin un des textes que t'écrivais sur ton Skyblog. C'était à quelle époque, t'avais quel âge?
Ben j'avais, du coup, j'avais entre 15 et 17 ans, c'était donc au lycée. Donc je dis, et un matin de soleil dur et froid, un matin où tu t'accroches à la fenêtre pour espérer la voir, un matin que tu passes à te maudire, ce matin-là tu comprends tout, le mécanisme s'enraye, s'arrête, tout se suspend, ta haine, ta violence disparaissent et font place à l'impossible. Tu comprends la force d'un seul mot lorsqu'il dessine autour de toi toute cette pourriture qui te rongeait les os. Tu t'enroules dans un silence, tu contemples ce que tu cherchais, c'était là, c'était elle. Tu prends feu, tu brûles toute cette merde qui t'empêchait d'ouvrir les yeux et d'enfin voir que ta vie a pris une autre route. Tu as peur, mais peu importe, tu sens la charge de l'amertume se libérer de tes épaules, tu chasses tes idées noires et tu le remplaces par ce petit bout de phrase, celui que tu vas répéter pendant des heures, jusqu'à ce qu'il s'infiltre sous ta peau, tu es amoureuse.
C'est le jour de la rentrée en seconde, donc septembre 2007. Lucie, il est juste là au bout de la rue. Je rentre dans cette classe où je ne connais pas tout le monde, puisque au lycée, on est brassé entre collèges, donc on découvre des nouvelles personnes. Et je m'assois, et cette fille s'assoit à côté de moi, et pour le coup, c'est ce qu'on appelle tout bêtement un coup de foudre. Je la vois, et elle est là, et elle est tellement belle. Et à peine je lui parle... C'est y a un truc qui me vient dessus et dont je peux pas aller contre en fait, je peux pas m'en départir. Il y a quelque chose qui me touche chez elle. Je ne sais pas ce que c'est, donc, mais après, tout de suite, je vais ressentir très fortement ce besoin d'être avec elle, de lui parler, d'être son amie au début, parce que donc, je ne m'en rends pas compte. Donc, la seule manière pour moi d'être avec elle, c'est d'être son amie. Donc, on développe cette amitié un peu fusionnelle au début, parce que moi, je suis avide de son contact. J'ai besoin d'elle. J'ai besoin d'être avec elle, parce que je pense que là il y a quelque chose de très fort qui me frappe et dont je ne me rends pas compte. Et donc, pour pallier à ça, il faut que je sois tout le temps avec elle, finalement.
Elle est comment, cette fille ?
Elle est grande, pas comme moi. Elle est blonde, elle est très belle, elle est douce, elle est gentille, elle est un petit peu... je sais pas, on va dire c'est une princesse. Voilà, moi, je le vois, mais même encore maintenant, je le vois comme ça. Hein, voilà, elle s'habille bien, elle sent bon. Enfin, voilà, moi, à côté, je suis un petit moustique, quoi. Alors, je deviens très amie avec elle pour m'en rapprocher, ce qui suscite d'ailleurs un petit peu de jalousie de la part d'autres de mes amis, parce qu'en fait, je les abandonne, mais complètement. Je n'en ai plus rien à faire. Je n'ai Dieu que pour elle. Je ne sais pas pourquoi ça se passe à ce moment-là, mais vraiment, enfin, on est tout le temps ensemble. Et en fait, même ça devient presque un chouïa maladif, c'est-à-dire qu'elle habite un petit peu plus bas dans la ville, le lycée est là, et donc tous les matins, au lieu d'aller au lycée à 20 secondes de chez moi, je me prépare plus tôt, je vais la chercher chez elle, et on va au lycée ensemble. Et ça, tous les matins, et quasiment je la raccompagne tous les soirs aussi. Alors, on dort ensemble une fois, alors moi, j'ai l'impression que c'est l'aboutissement de toute une vie, je sais pas, je devais être totalement euphorique. Et bon, rien ne se passe, mais je pense que ouais, j'ai envie un petit peu de me coller à elle ou de la toucher ou je sais pas. Effectivement, cette première nuit, c'est un peu aussi le... Bah, tout de suite, on est dans un cadre plus intime. Donc, on se pose d'autres questions que peut-être on se pose pas en plein jour parce qu'elles n'ont pas lieu d'être. Et là, effectivement, on est toutes les deux dans un lit. Et puis, enfin, j'ai quand même 15 ans, donc je ne suis plus une enfant. Et oui, je pense qu'il y a... À l'époque, je ne me déclare pas encore amoureuse, donc je pense que je ne me rends pas compte non plus. Mais effectivement, oui, je ressens quelque chose. Oui, je pense que j'ai envie de la toucher, en fait.
Et à quel moment t'as dit à cette fille que finalement, ce que tu ressentais pour elle, c'était un peu plus que de l'amitié ?
Donc, c'était par texto aussi, quand je lui ai dit que je l'aimais. Bon, moi, ça m'a extrêmement blessée à l'époque, mais elle m'a répondu très gentiment que bah, elle entendait ce que je disais, mais elle partage juste pas mes sentiments. Elle ne m'aime pas, elle aime ce garçon avec qui elle est. Et puis voilà, je pense qu'elle rajoute une petite mention du style « ça ne changera rien à notre amitié ». Bon, c'est faux, mais ça partait d'un bon sentiment. Alors déjà, j'avoue pour la première fois à une fille que je l'aime, et en plus, elle ne va pas dans mon sens. Alors là, c'est l'effondrement total, mais je pense que c'est un effondrement général, en fait. Je me demande même si c'est pas une forme de soulagement, parce que finalement, ça y est, je l'ai dit, et en fait, elle me répond non, mais c'est un peu aussi dans cet esprit que de délivrance. Donc, y a quelque chose qui se brise en moi, mais je pense que c'est un petit peu aussi, quelque part, une forme de délivrance de l'avoir enfin dit. Et que quelqu'un, surtout elle, que j'aimais, le sache, ça fait extrêmement de mal et de bien à la fois. Donc oui, j'ai le cœur brisé parce que bah, elle partage pas mes sentiments. Et j'ai aussi un petit peu le cœur brisé parce que je sais que même si elle dit que ça ne changera rien entre nous, ça a changé des choses entre nous, ne serait-ce que le lendemain, quand cette fois je n'ai pas été la chercher chez elle, morte de honte, j'arrive devant le lycée et je la vois qui me regarde et je vois qu'il y a quelque chose qui a changé dans son regard. Alors, je ne sais pas si je ressens le besoin d'en parler à mes parents, mais effectivement, tout est un peu concomitant. Donc, ça part en fait d'une blague que mon frère fait au détour d'une conversation ou d'un repas en disant un petit peu, oui, voilà, sur le ton de la rigolade, « Ah, hello, elle aime les filles. » Je pense que c'est moi qui lui ai demandé d'y faire allusion, parce que je ne pense pas qu'il aura été maladroit au point de le dire comme ça sans mon consentement. Donc, je pense que c'est moi qui lui dis... dis-le ou fais une blague ou quelque chose pour moi, un petit peu pareil pour me soulager ou pour entamer le dialogue, un peu pour déclencher quelque chose finalement, pour que ça bouge, pour que les choses se remuent et qu'on essaye de progresser sur ce sujet-là, mais une fois de plus, sans que ce soit très, très officiel. Donc ça part comme ça.
T'étais là ce jour-là ? T'y as assisté ?
Très franchement, si j'essaye de décrire la scène, je pense que mon frère est avec mes parents dans la cuisine et que moi, je suis un peu genre juste derrière ou dans les escaliers à écouter d'une oreille. Tout de suite, on s'offusque. Comment ? Non. Et puis alors, comme c'est dit un peu sur le ton de la blague, voilà, c'est, ça passe un peu entre les mailles du filet, on va dire. Et en fait, après, il n'y a pas vraiment de conversation frontale ou de moment où je revisualise une scène très précise où on se parle de ça très franchement. Je pense que c'est plus des petits signes par-ci par-là ou moi-même, peut-être que je le redis une fois dans une conversation, peut-être même pas très sérieusement. Je tiens aussi un blog à l'époque où j'écris beaucoup d'histoires qui parlent de deux filles. Et je sais que mon père lit ce blog, donc je sais qu'il lit ces histoires. Il peut pas les ignorer, hein. Il est pas bête. Hein. Il n'y a pas elle et il, il y a elle et elle. Donc là, il n'y a pas de confusion possible. À l'époque, j'ai un drapeau dit de la communauté bisexuelle que j'ai dans mon bureau, je pense que c'est, enfin dans ma chambre, je pense que c'est un peu aussi une manière de le dire sans le dire. C'est-à-dire que je vous le montre, mais je vous le dis pas. Vous le voyez, mais il y a pas cette conversation où je vous dis papa, maman, je suis homosexuelle parce que c'est trop dur, j'y arrive pas. Et ça a dû mettre très sincèrement des années à être acté en tant que tel.
Je me posais des questions sur ce qu'on va appeler une tocade, plutôt en fait un, comment on va dire, un effet de mode qui l'aurait conduit à avoir des expériences avec des filles plutôt qu'avec une vraie tendance profonde ne l'attirant que vers les filles.
Et qu'est-ce qui vous faisait penser que c'était un effet de mode ?
Parce que, en fait, j'observais qu'autour d'elle, il y avait beaucoup de jeunes qui semblaient justement vivre un début d'homosexualité. Alors, c'était peut-être parce qu'Héloïse s'entourait justement d'amis qui étaient garçons et filles, hein, qui étaient comme elle. Mais par ailleurs, dans ma famille aussi, j'avais connaissance d'un autre cas sur une fille. Et j'avais l'impression, véritablement, même en discutant avec mes amis, qu'à chaque fois, pratiquement dans une famille, il y avait un des jeunes qui parlait d'homosexualité. Et donc, d'où cette impression, en fait, de mode. Il y avait une sorte de lobbying sur les jeunes. Et voilà, et qu'il fallait pratiquement que chacun ait pu effectivement faire des expériences et que ça n'avait pas trop d'importance. Enfin, j'avais vraiment l'impression effectivement que énormément de jeunes par rapport à mon époque, on va dire, soit 30 ans avant, voilà, que c'était quelque chose qui se répandait beaucoup et même autour de moi, des parents avaient l'impression de penser la même chose.
Entre le lycée et l'université. Et donc, on a ce village en vacances où on va régulièrement depuis que je suis née. Et donc, des garçons, des cons, lancent un truc genre « suce ma bite », voilà, dans une délicatesse mesurée. Et je pense que j'ai dû faire allusion au fait que ça ne m'intéressait franchement pas. Et donc, s'ensuit un florilège d'insultes. Je sais pas, enfin, il me dit salgouine, ou des trucs. Je me souviens même plus de ce qu'il me dit, c'est pour dire à quel point c'était pas intéressant. Et donc, c'était pas intéressant, mais ça m'a quand même blessée, puisque je rentre en larmes. Et ma mère me dit quelque chose, genre, t'avais qu'à pas te montrer.
J'ai dû lui faire passer le message que il fallait peut-être qu'elle soit effectivement, pour elle-même, pour se protéger, prudente par rapport à la manifestation de son homosexualité et que si elle était libre de l'être et que nous, on l'acceptait, pour elle-même, elle devait certainement faire les choses très progressivement, voilà, sans brutalité. Héloïse, elle est extrêmement spontanée. Voilà, parfois, il faut se méfier un petit peu, justement, d'aller trop vite dans les choses qu'on dit ou qu'on fait. Et voilà, pour que ça passe plus facilement.
Et à ce moment-là, tes parents pensent encore que c'est une passade pour toi ?
Je saurais trop dire. Je pense que progressivement, ils ont pris conscience parce que bah, voilà, c'est ça, c'est le drapeau, c'est le blog, c'est des petits indices un peu semés, genre façon petit pousset, qui ont fait qu'ils ont suivi la voie et qu'il y a eu un moment, je ne saurais pas dire quand, où ils ont compris que ce serait comme ça.
Et c'est à 18 ans que Héloïse vous a présenté sa première copine ?
Oui, c'est ça, à 18 ans, puisqu'elle commençait ses études après le bac.
Est-ce que c'est à ce moment-là que pour vous, c'est devenu concret ?
Oui, c'est devenu concret à ce moment-là. puisque donc son amie restait ici à dormir et qu'elle passait énormément de temps ensemble. Et ça m'agaçait aussi. Alors là, je pense que ça aurait pu être garçon ou fille, mais parce que ce n'était pas le bon moment pour les études.
Je pense que j'ai d'abord dû leur dire que j'avais une copine avant de l'amener comme ça de brut en blanc. Et puis, elle a dû passer une fois à la maison, pareil, pour venir dormir un week-end. Bon, ça se passe, je pense qu'il y a un petit moment de malaise TV, genre, voilà, c'est ma copine, gênance, silence. Et puis, voilà, et puis après, ben, c'est tout, elle est là, et puis c'est comme ça.
Tu te souviens pas de la réaction de tes parents sur le coup ?
Mes parents, ils vont jamais faire d'exclandre, ils vont pas faire de scène en public, ni ailleurs d'ailleurs, ni en privé, hein, ils m'en ont pas fait après. Donc rien, ils l'ont accueilli, ils se sont dit bonjour, ils ont peut-être échangé 3-4 phrases par politesse ou des banalités, je sais pas, et puis après, on est partis dans notre coin, on était jeunes, on n'allait pas s'encombrer des parents. Hein. Et par contre, il y a eu une rencontre entre ma première copine et mes grands-parents qui ne s'est pas bien passée, où donc j'étais dans mon village de vacances. Donc j'ai une maison là-bas et mes grands-parents également. Enfin, j'ai. Ma famille a une maison là-bas et mes grands-parents aussi, à 100 mètres d'écart. Et j'emmène ma copine, on passe dans la rue, donc on va leur dire bonjour. Et là, froid total, regard... méchant, enfin méchant, je sentais qu'ils étaient énervés ou je savais pas trop quoi dire. Je sens que quelque chose ne va pas. Je ne comprends pas ce que c'est. Je sens que quelque chose est bizarre. Donc on s'en va parce que c'est une ambiance malaisante. Et je le dis à ma mère et donc ma mère me dit que elle pense que eux ont compris ce qui se passait avec cette fille-là. Donc ils ont compris que j'étais avec une fille. Ensuite eux passent un coup de fil à la maison et me demandent de revenir là-bas. Seule, cette fois-ci. Donc j'y retourne. Et alors ensuite, on s'installe autour d'une table très similaire à celle-ci, dans une atmosphère hyper procédurière. Et mon grand-père se lance dans une diatribe sur le fait qu'il ne veut pas revoir cette fille-là, qu'il ne veut pas la rencontrer, qu'il ne veut pas la voir chez lui et qu'il ne veut pas la voir ailleurs non plus. Ma grand-mère ne dit trop rien et puis ça dure pas très longtemps, je pense, parce que je suis extrêmement mal. Donc je pense que je pars encore une fois. Et à la suite de ça, donc je pense que c'était pendant une période de vacances scolaires, à la suite de ça, donc on rentre de Normandie. Et ma grand-mère, qui ne s'était pas exprimée à l'occasion de cette discussion, m'envoie une lettre qui m'est adressée en me tenant sensiblement le même discours, en me disant que je peux avoir des amitiés très fortes pour des filles, mais que je ne suis pas obligée de les pousser à ce point-là. Et surtout en me disant d'être discrète vis-à-vis de mes frères et sœurs. C'est ça, les deux phrases dont je me souviens, c'est ça. C'est « tu peux avoir des amitiés avec des filles, mais il ne faut pas que ça aille trop loin. » Et « sois discrète avec tes frères et sœurs. » Moi, je suis extrêmement en colère contre eux quand même, mais je décide donc de ne pas aller au front. Parce que j'ai pas envie de dispute, ça me blesse trop, les conflits, je supporte pas, donc je ne dis rien en fait. Et je pense que c'est ce silence un peu qui marque cette dispute, c'est surtout mon silence. Peut-être même que je me retire d'une ou deux réunions familiales pour dire « vous ne voulez pas de moi, je ne serai pas là en fait. Vous ne voulez pas de ma copine, donc vous ne voulez pas de moi, donc je ne serai pas là. » Et il a dû s'écouler, je pense, peut-être six mois à un an avant qu'il y ait une nouvelle confrontation entre eux et moi, où mon grand-père, qui n'est pas très démonstratif, m'a fait une petite accolade et m'a dit « on a été un peu dur avec toi ». C'était sa façon de dire « excuse-moi ». Je le sais parce que je le connais et que je sais que c'est un homme qui ne s'exprime pas facilement sur ses sentiments. Donc j'ai compris à ce moment-là que pour lui, c'était sa manière de se remettre en question et de dire « on a compris, on a entendu, il nous a fallu du temps, on a pris ce temps, il est pris et maintenant on passe à autre chose ».
Quand on lit la Bible, ça commence par Adam et Ève. C'est vraiment un homme et une femme qui sont complètement complémentaires. Donc c'est vrai qu'il y a une incompatibilité de base Voilà, pour moi, même si ça va peut-être plus qu'au-delà de la religion, c'est même quasiment anthropologique. C'est que s'il y a homme et s'il y a femme, c'est pour une bonne raison. Voilà, le fait que deux femmes ou que deux hommes ensemble ne puissent pas concevoir, c'est quelque chose de fondamental. Donc effectivement, c'est complètement contradictoire avec ce qui est énoncé dans la Bible, où je ne l'ai pas lu. Nulle part l'existence ni la reconnaissance de l'homosexualité, même si par ailleurs on va lire aime ton frère comme toi-même ou voilà, mais je ne lis pas d'acceptation de l'homosexualité. Ceci dit, c'est pas ça qui me perturbe plus que ça maintenant, franchement. Encore une fois, s'il faut choisir quelque chose, on choisira toujours notre fille d'abord.
Mais la Bible, si on la lit à la lettre, il faut savoir que dans la Bible, il y a également l'Ancien Testament, qui est donc les écrits que suivent les Juifs. Et dans la religion juive, il y a 1001 commandements alimentaires, vestimentaires, etc. Et on a réussi à se détacher de ça. Progressivement, il va y avoir un clivage entre des choses qui ont été écrites déjà par des hommes. Et en plus, il y a des millénaires. Et la société telle qu'elle est actuellement, j'ai toujours pensé que c'était la religion qui s'adapterait à ma vie et pas l'inverse. Je vais à la messe, je me sens très bien d'aller à la messe. D'ailleurs, c'est assez fou, mais je n'ai aucun ou très peu d'amis religieux, mais de quelque religion que ce soit. Les jeunes aujourd'hui sont hyper éloignés de la religion parce qu'elle a un côté sectaire, communautariste, dogmatique et qui ne se prête pas très bien au XXIe siècle. Et pourtant, il y a des belles choses à en retirer et j'espère pouvoir toujours faire ça, de retirer ces belles choses de la religion et de laisser un peu de côté ce qui, moi, me paraît incompatible avec ma vie et juste de prendre les belles choses et puis de conjuguer ma vie homosexuelle avec.
Et par rapport aux questions de parentalité, c'est quelque chose dont vous parlez entre vous ?
Qu'est-ce que vous appelez la parentalité ?
Sur sa future famille. Oui.
Est-ce qu'on en parle? Bah oui, parce que Louise, elle exprime le désir clair d'avoir des enfants. Ce que je peux tout à fait comprendre, puisque moi-même, la première chose dont j'avais envie, c'était d'avoir des enfants. Donc, je peux complètement comprendre cette envie qui devient la plus forte, surtout quand on commence à passer le cap de 25 ans. Effectivement, on se pose clairement de plus en plus la question. Moi, je ne me serais pas vue vivre sans enfant. Ça aurait été un drame si je n'avais pas pu en avoir moi-même. Donc, je comprends complètement. Je pense même que j'aurais été capable, moi, de faire ce qu'on appelle un enfant toute seule. C'est-à-dire que si je n'avais pas trouvé de mari, je me serais débrouillée, mais j'en aurais eu un de toute façon. Donc, je comprends complètement ça. Mais je l'aurais fait naturellement, je pense. Voilà, après c'est vrai que là il va falloir passer par on va dire des méthodes
Regarde, imagine, je sais pas, c'est pas du tout ce que je leur souhaite, mais imagine, je sais pas, on apprend que Pauline ou Alexandre est stérile. Bon, je suis désolée de c'est un peu la même chose au final, aux yeux de la médecine, je suis considérée comme entre guillemets stérile, c'est un petit peu
stérile anthropologiquement, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de faire un enfant avec une autre femme comme ça. Où on peut pas, tu peux pas te, tu n'es pas comme un, comment ça s'appelle, un hippocampe, tu n'es pas hermaphrodite. Voilà, donc il va falloir utiliser ou une insémination artificielle ou bien te débrouiller avec des techniques, parce que quand on lit un peu sur le sujet, certaines n'hésitent pas à utiliser de stratagèmes assez naturels, d'ailleurs assez simples, hein, pour arriver à leur fin sans passer par la PMA. Donc voilà, bon, bah ça sera comme ça. Après, il faudra quand même l'expliquer à l'enfant. C'est ça aussi qui sera une autre étape en fait.
Queer est une série de Rosane Le Carboulec, produite par Nouvelles Écoutes, réalisée par Alexandre Moniol, habillée par Aurore Meyer-Mailleux, mixé par Charles de Cilia et coordonné par Laura Cuissard. Retrouvez l'ensemble des épisodes sur nouvellesécoutes.fr/queer, Q-U-O-U-I-R. Si vous voulez réagir à cette série ou partager vous aussi votre coming out, pouvez m'écrire sur la page Facebook de Queer et sur les réseaux sociaux de Nouvelles Écoutes. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles sur Apple Podcasts. À très vite.